Salut la compagnie, bienvenue dans le podcast qui parle d'innovation sociétale et autres.
La compagnie générale
des autres.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est la
pure convivialité.
Un autre après un autre après un autre après un autre.
Notre maison brûle. Et
le meilleur est toujours possible.
Par conséquent, l'espérance est là, à condition de ne pas se laisser rendre indifférent.
Et nous sommes toujours place du Guignier pour le 20e festival, organisé dans le 20e arrondissement de Paris, sur un plateau radio animé par l'association Les Fripons. On va maintenant parler inclusion numérique. Et l'inclusion numérique, c'est quoi ? Ben Valérie, explique-nous.
Alors, l'inclusion par le numérique, ça veut dire quoi ? Être capable de remplir seul sa déclaration d'impôt en ligne ? Oui, ça en fait partie. Posséder le matériel approprié et avoir une connexion Internet ? Ça aussi. Chercher et postuler pour un job ? Encore oui. Si ça paraît évident pour beaucoup, de nombreuses personnes restent en difficulté avec le numérique. D'après la Défenseure des droits, dont le rapport est sorti en 2022, 10 millions de personnes sont en difficulté avec le numérique. Compliqué pour elles d'exercer leurs droits. Inclure par le numérique, c'est donc tout d'abord former aux compétences digitales de base, comme naviguer en toute sécurité sur Internet, envoyer et recevoir un email, recevoir ou ajouter une pièce jointe, accéder à ses espaces personnels en ligne. Et dans le domaine professionnel, il faut en plus savoir rédiger et mettre en page un CV, donc être capable d'utiliser un logiciel de traitement de texte. Au-delà de cette réalité qui pénalise particulièrement l'accès à l'emploi des personnes les plus fragiles pour des questions de pauvreté, de handicap, de maîtrise de la langue ou de faible niveau de qualification, comme la société se numérise, les besoins de techniciens et de développeurs sont grands. L'inclusion par le numérique, c'est donc aussi pouvoir bénéficier de formations pour travailler dans un secteur en plein essor qui présente une opportunité réelle d'insertion sur le marché du travail. Et si possible, l'ouvrir à la parité, car ce domaine reste encore majoritairement masculin.
Merci beaucoup Valérie. Alors pour comprendre vraiment les enjeux, les tenants et aboutissants de l'inclusion numérique, il y a autour de la table Karine Gavard de Social Builder. Bonjour Karine.
Bonjour Nicolas.
Tu vas bien ?
Très bien, et toi ?
Très bien. Et Jude Toussaint de Connexio. Salut Jude.
Bonjour.
Ça va, pas trop chaud, le soleil tape.
Il fait un peu chaud, mais ouais. Ça va.
J'ai le dos qui crame.
Le dos qui crame. Alors, Karine, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi Social Builder et comment ça s'inscrit dans l'inclusion numérique ?
Alors, Social Builder est une association qui a été créée en 2011 par Emmanuel Larocque. Et nous avons pour principale mission de promouvoir l'inclusion des femmes dans les métiers du numérique. Le constat est que les femmes ne représentent que 27,9% des employés dans ces métiers-là, et alors que c'est une filière en forte croissance et en difficulté de recrutement à ce jour. Donc nous avons créé des parcours pour assurer l'insertion des femmes par l'orientation et la découverte des métiers du numérique comme Adabot, Forum Oser la Tech, ou encore un programme d'exploration numérique de 3 semaines pour découvrir tous les métiers du numérique par divers ateliers. On a des formations pour des montées en compétences digitales ou des métiers de numérique comme data analyst, web developer, etc. Et toutes ces formations sont accompagnées à l'insertion dans l'emploi avec des ateliers collectifs et un mentorat.
Et alors du coup, est-ce qu'il y a des conditions particulières pour pouvoir bénéficier de ces programmes ? Si je connais quelqu'un qui a envie du coup, d'avoir des compétences dans les métiers du numérique, comment on fait ?
Alors la seule condition particulière, c'est être demandeuse d'emploi, inscrite à Pôle emploi ou allocataire du RSA. On n'a pas de prérequis d'âge ni de diplôme. En fait, le vrai prérequis, c'est la motivation de la personne, son envie de découvrir, son envie d'aller de l'avant, tout en sachant que tous nos programmes sont gratuits, car totalement pris en charge par Social Builder.
Et ça marche du coup ? Il y a des femmes qui viennent et qui apprennent ?
Ça marche, c'est difficile car il faut lutter sur beaucoup de choses qu'on développera tout à l'heure, mais les femmes ont une appréhension des métiers du numérique ou ne connaissent pas les métiers du numérique, n'osent pas s'engager vers ces métiers-là.
D'accord, mais il y a quand même de bons résultats.
Quand les femmes se lancent, on a d'excellents résultats. Meilleurs que les hommes.
J'en doute pas. Et alors, concernant Connexio, Jude, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Connexio ?
Connexio est une association et un organisme de formation fondé en 2016 sur la base d'un double constat. Donc, d'une part, 13 millions de Français sont éloignés du numérique et d'autre part, 75% des postes nécessitent des compétences numériques de base. Donc pour nous, c'est un vrai enjeu. Donc face à ces constats, nous avons développé des formations adaptées et aux besoins de ces publics vulnérables. Donc nous avons deux blocs donc, qu'on propose à ces publics. Donc un premier bloc des programmes solidaires, un autre bloc des programmes certifiants. Donc sur le premier bloc, c'est des formations pour monter en compétences numériques, donc de niveau basique à un niveau avancé. Et d'autre part, donc sur les formations certifiantes, on va plutôt former pour les métiers de demain, notamment le métier développement web et technicien système réseau. Donc ces programmes, ces différents programmes sont gratuits, financés par dans le cadre des appels à projets de l'État ou des partenaires privés. Donc on donne la possibilité à ces personnes de trouver du travail et de pouvoir s'insérer sur le marché.
Ok, du coup, oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de financement, tout ça, mais pour Social Builder, par exemple, c'est aussi des appels à projets. Comment ça fonctionne ?
On a différents partenaires, des partenaires publics et institutionnels qui nous soutiennent, qui nous donnent des subventions, comme Préfecture Île-de-France, la région Île-de-France, Pôle emploi qui nous soutient sur certaines formations. On a des partenaires académiques comme l'APEC, la Grande École du Numérique. On a des partenaires privés, là où on a des subventions, des fonds financiers, comme la Fondation RATP, IBM, Microsoft. Et aussi, on a des dons de matériel. Nos mentors sont tous des bénévoles, donc c'est aussi une forme de don, de donner de sa personne et de nous aider, de nous soutenir bénévolement. Et on a aussi du don de Giga, grâce à Bouygues. Qui nous permet de pouvoir offrir des solutions aux femmes par un don de téléphone avec des gigas et une gratuité pendant un an, ce qui leur permet de rester en relation avec nous, avec leur formateur, avec la personne référente du programme pour toute demande, toute question, besoin de se rebooster, de se relancer. On les remercie énormément, tous ces partenaires qui nous aident et qui nous soutiennent. Mais on est toujours en recherche de fonds. Donc s'il y a de nouveaux partenaires sur cette place, je suis preneuse.
Ah oui, j'imagine bien que la gratuité est essentielle pour que l'inclusion fonctionne. Oui, c'est forcément un enjeu très important pour toute structure comme ça qui travaille dans l'économie sociale et solidaire. Donc ce matin, il y avait des ateliers et puis plusieurs ateliers et groupes de réflexion en amont de l'événement, hein, comme on le rappelait tout à l'heure. Il y a un enjeu particulier qui est ressorti, c'est la thématique du aller vers, donc la difficulté à mobiliser les publics, parce que surtout concernant Connexio, qui, si j'ai bien compris, va toucher des publics qui sont les plus éloignés et les plus en besoin. Comment Connexio arrive à s'en sortir avec cet enjeu, ce problème-là déjà ? Est-ce que c'est un problème que vous rencontrez ?
Justement, c'est un problème que nous rencontrons régulièrement, puisque ce public qui est fragilisé n'est pas facile à trouver. C'est pas au coin de la rue que vous allez retrouver ce public-là. Donc, de quel public on parle ? C'est des personnes en reconversion professionnelle, des personnes âgées, des migrants, des femmes éloignées de l'emploi. Donc, éloignées, ça s'explique. Donc, des résidents des quartiers prioritaires, donc des quartiers sensibles. Donc, nous, ce qu'on fait, donc, on va dans les quartiers. Donc, nous travaillons avec des centres sociaux, des missions locales et des maisons de l'emploi pour cibler et identifier ces personnes. Donc, nous avons nos locaux à Paris, dans le 20e arrondissement. Et ce qu'on fait, donc, on va vers ce public-là, au plus proche de ce public, pour proposer nos formations. Donc voilà ce qu'on fait pour aller vers ce public. Donc on travaille avec les acteurs de terrain, donc qu'on recherche régulièrement pour alimenter nos sessions afin de former et identifier ce public.
Oui, c'est ça, j'imagine que ça passe par plein de partenariats, oui, qui peuvent être publics et qui identifient, mais aussi oui, d'aller physiquement place et identifier, parce que j'imagine que d'un quartier à l'autre, les problématiques ne sont pas les mêmes et que la plupart du temps, les publics recherchés ne sont pas les plus visibles.
Ouais, mais c'est en fait ça permet de mieux comprendre la réalité du terrain, parce que si on reste dans son bureau et on envoie des mails, forcément on va avoir deux trois participants, mais pour aller comprendre la réalité du terrain qui évolue au fur et à mesure, c'est quand même bien de se déplacer, d'aller sur le terrain. Des fois il y a des partenaires qui organisent des événements au bas des immeubles, nous on vient, on s'incruste des fois dans ces genres d'événements afin d'échanger avec les personnes, comprendre mieux les besoins afin d'adapter notre offre, voilà, en fonction des besoins de ce public.
Oui, puis c'est vrai qu'on comprend facilement que si l'idée c'est de c'est un problème d'inclusion numérique et l'idée c'est de toucher des personnes qui sont éloignées du numérique, c'est évidemment pas par mail qu'on arrivera à les contacter, ce serait même contre.
Et puis si je peux ajouter, Connexio dans sa logique de start-up, donc dans une pédagogie et un accompagnement en évolution constante, donc nous il nous faut ces informations-là afin d'adapter au mieux nos actions face à ce public fragilisé.
Ok, et dans un autre enjeu qui est ressorti, c'était un problème de mentalité. Alors là, je me tourne plutôt vers Karine, ou notamment de la place des femmes dans le numérique, et qui a un frein important, c'est que ça reste quand même tristement un univers genré, le numérique. Enfin,
malheureusement, ça reste un univers genré, comme beaucoup d'univers, mais c'est vrai que on a pu constater que cet univers genré est dès le plus jeune âge par notre éducation en tant que parents, qui est perpétrée par l'éducation nationale en se disant que telle et telle filière c'est pour les garçons, telle et telle filière c'est pour les filles. On est quand même en 2023 et sur des classes d'ingénierie on a une fille pour 30 garçons, donc on imagine pour le reste. Et il y a aussi une méconnaissance, surtout des métiers du numérique, les grandes familles des métiers du numérique, sur à quoi ça consiste, ça correspond à quoi, sur quel métier on va aboutir. C'est vraiment une méconnaissance au niveau des parents, des structures d'accompagnement des femmes aussi, qui connaissent pas ces métiers du numérique à ce jour. Pôle emploi aussi, sans les nommer, je vais me faire taper dessus, mais il y a des conseillers qui ne connaissent pas du tout les métiers du numérique, donc qui ont du mal à accompagner les femmes vers ces métiers-là. Et c'est pour ça que ce matin, on a soulevé le fait que pourquoi pas faire dans les structures, dans les endroits d'aller vers, des ateliers stéréotypes. Déjà, reconnaître un stéréotype, lever les freins. Comment lever les freins? Comment s'affirmer en tant que femme dans ces milieux genrés? Se protéger, savoir se protéger contre le harcèlement qu'on peut subir sur ces terrains-là. Parce qu'il y en a beaucoup aussi quand on rentre dans un terrain d'homme. Il faut savoir que le harcèlement est présent aussi par des petits tics, des petites phrases et tout ça. Donc ces ateliers seraient importants pour ce public-là. Et aussi pour ce public-là, les découvertes des métiers du numérique aussi, parce qu'elles ne les connaissent pas de par le fait qu'on ne leur en a jamais parlé, elles n'ont jamais eu la possibilité de les découvrir, et qu'on leur a fermé les portes dès l'école, donc elles ne se sont jamais tournées vers ces métiers-là en se disant que ce n'était pas pour elles de façon automatique.
Et Jude, est-ce que aussi avec Connexio, dans les chiffres des participants, les profils, il y a un peu ce même souci d'autocensure.
Malheureusement, en 2022, en fait, nous avons recensé 35% de femmes sur nos formations, ce qui n'est pas beaucoup. Donc le but, c'est de pouvoir faire augmenter ce chiffre-là. Donc nous essayons de travailler avec Social Builder donc dans ce sens, afin d'augmenter ce chiffre. Et puis d'aller vers d'autres partenaires sensibilisés sur la question, afin de avoir plus de participantes sur nos formations. D'ailleurs, je tiens à souligner qu'on travaille avec le centre social dans le 93 que je ne vais pas citer, qui mobilise à chaque fois des femmes sur nos formations, donc que je salue, que je n'ai pas cité aussi.
En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes au-dessus de la moyenne nationale, hein, c'est ça, si vous avez dit 35% tout à l'heure, Karine, j'ai entendu le chiffre de 27,9%, un peu moins de 28%
de femmes représentées.
Des femmes représentées, et là, ah oui, non, là, c'est 30% parmi les...
sur les, en 2022 parmi les personnes formées.
Okay.
Nous, de notre côté, en 2022, on a réussi à accompagner 7150 femmes, ce qui est quand même important. Ça fait une belle marge de manœuvre et on se rend compte qu'on a tout public de 18 à plus 55, 60 ans. Soit c'est des personnes à la fin de leur parcours scolaire, elles se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas dans la bonne voie, que ça ne leur plaisait pas. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui terminent leur diplôme, mais ce n'est pas leur métier, ce n'est pas ce qu'ils veulent faire. Et maintenant, on est dans une optique aussi où la reconversion, il y a 10 ans, c'était ponctuel. Maintenant, c'est une chose qui va devenir courante, c'est-à-dire qu'on va être amené à faire plusieurs métiers dans nos vies. Et on a beaucoup de femmes de 45 ans qui se reconvertissent et qui viennent vers nous, vers les métiers du numérique. Donc c'est vrai qu'on est super ravis de pouvoir les recevoir, de les accueillir et de les accompagner.
Oui, ça va dans le bon sens.
Ça va dans le bon sens, on va y arriver.
Mais il ne faut pas se relâcher.
Oui, tout à fait.
C'est un effort continu, je dirais.
Oui, puis du coup, qui passe par l'évolution des mentalités, l'éducation, les projections de comment on sent et ce qu'on peut faire. Forcément, c'est des processus longs.
C'est ça, il faut être très patient, c'est ce qu'on m'a dit quand je suis arrivée chez Social Builder. Karine, il faut être patiente, on va y arriver, mais il faut être patiente, donc je suis patiente maintenant.
Bon, on va s'arrêter sur ce message d'espoir, en tout cas merci beaucoup.
Merci à vous.
Vu Toussaint de Connexio, alors Connexio, si on vous croise pas sur des événements, on peut quand même vous retrouver en ligne pour ceux qui auront un minimum de compétences informatiques sur connexio.eu. Et pour Social Builder, il y a aussi un site internet socialbuilder.org. Et surtout, on vous donne rendez-vous parce que vous serez au forum Oser la Tech en octobre. Merci à vous deux, et puis bravo pour ce que vous faites. On va s'arrêter là pour l'inclusion numérique et on se retrouve dans un instant pour un nouveau domaine, c'est l'insertion par l'activité économique. À tout à l'heure.
Merci. À tout à l'heure, merci.